Très grand rôle au niveau des intellectuel, on pourrait dire. Et justement, là, il y a telle... Attends, deux minutes sur l'économie, ça va être une sorte de sujet pas mal. Constantin, non ? Pas plus tard. Alors, justement, ça pose la question qui est sous-jacente, la question de l'histoire de l'athéisme. Alors, on peut repartir un peu du psaume. Dans les psaumes, l'athée, celui qui nie Dieu, est un insensé. Et donc, il est traité comme Madame Antal, on a l'impression d'être un insensé. Soit on y a possédé. Et ça va durer, jusqu'à ce qu'on même discuté. Les premiers écrivains, quand Giordano Bruno, en Italie, est brûlé en 1600, il est en tant qu'athée, parce que justement, il n'est pas athée. Hein. Bruno est plutôt, on va dire, un petit peu catholique et déiste en même temps. Et Bruno, il avait osé dire que je crois que l'univers est infini. Voilà. Et donc, il y a les fameux libertins. Quel était l'ambiance des libertins? Le premier grand écrivain athée, je pense, c'est le curé Meillier, sous la fin de Louis XIV. Hein. Le curé Meillier, curé des Trépignies, mais qui avait écrit manuscrit. Et lorsque, alors ça c'est marrant, parce que c'est pour ça que j'ai dit, on va parler de prostitution. Lorsque le curé Meillier est édité en France, français, il est édité par Voltaire, et en fait un déiste. Alors que Meillier ne peut absolument pas parler, pas voir les déistes encore moins que les catholiques, moins que les protestants. Donc, les athées, qui sont les athées, les inventaires de l'essai, ont peut-être citer quand même des problèmes aux héritiers en citant des vilains livres comme quelque chose aussi. Et on ne va pas faire dans des inventaires et des en province, on ne va pas me châter proprement dit. C'est biophilosophique avec un père de manière qui a daté l'athéisme des siens. Et il y a des certains qui ont accepté. Les libertins sont qui a daté la profession. Entre profession, c'est ça. Il faut que quand ça va bien, quoi ça va être, les femmes aspects de religion, un peu de religion. Ça pose le problème des exclus, si tu vois, les comédiens, le bourreau, les comédiens, il y a encore des exclus. Bon, bien sûr, 7e, mais la folie, l'athéisme, on pourra peut-être reconnaître, à partir du moment où on connaît la folie, c'est un problème.
Ah, mais c'est pas grand-chose, c'est simplement, il me semble qu'au 18e, il est exprimé l'athéisme, et il est exprimé publiquement, mais aussi bien, on se retrouve à la prison de Vincennes. Par exemple, Diderot, qui a été enfermé. Et tous ses copains, là, le matérialiste, les matérialistes, Riedelbach, Vessius, Sade. Ben oui. Et il y en a, donc, c'est quand même ça. Mais ils subissent des perquisitions à domicile, on confisque les livres et on les envoie faire des petits séjours à Vincennes, en prison.
Si on regarde les clubs, les sociétés pensées, eh bien, parfois on peut faire des discours, par exemple, faire des conférences comme ça, etc., se réunir, à condition qu'on ne parle pas de la politique nationale et de la religion. C'est-à-dire, souvent, on est exclu dans des de clubs, de sociétés. Alors, il y a quand même des cafés. Ça joue un peu le rôle de café filon, café littéraire. À l'époque, il y avait des cafés, des papés, pour répondre à des questions, pour s'exprimer comme ça.
En fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans tout ton développement, c'est en fait que tu montres comment à certaines époques, il y a un espace qui peut justement apparaître, qui peut se créer, qui est indépendant des religions. Et en fait, ça, on le voit à plusieurs reprises quand tu montres qu'il y a... Enfin, je ne sais pas si on pourrait revenir là-dessus, mais justement, la préhistoire de la laïcité, moi, c'est pas... Je pense que c'était ton propos. Ça fait que j'ai particulièrement prêté attention à tous ces moments où il y avait cet espace indépendant du religieux qui pouvait petit à petit apparaître.
Il faut avoir une progression linéaire finalement dans cette histoire de la laïcité. Il y a des petites sortes de petits flashs comme ça qui se produisent. Et il faut aussi que l'histoire ne ferme pas les parenthèses. Il y a des rebonds. Il y a des rebonds qui se font.
Il y a des éléments qu'on puisse
favorable à l'émergence des entreprises. Quels sont les facteurs qui permettent justement cette émergence collective, économique? Moi, je pense qu'il y a un exemple qui est très caractéristique, c'est parce que en période d'expansion économique, avec le rôle des, notamment le rôle des marchands, le rôle des villes, par exemple, le 19e siècle, c'est le siècle de l'émancipation urbaine, ce qu'on appelle la révolution urbaine, qui était quelque chose de révolution urbaine, à Nîmes, un peu de révolution, et une progression à Nîmes, ça s'est fait plutôt par grignotage. La fidélité des chevaliers des arènes ont progressivement baissé de la voie, et il y a eu cette progression de la marchandise. Et il y a un passage également, il y a un passage entre les gens. Mais un symbole qui me vient à l'esprit, c'est les beffrois des villes du nord, par ici. Je pense souvent au fameux beffroi de Moulin. Vous avez la cloche, grosse cloche qui sonne les heures, qui est frappée par Jacquemart et sa femme, qui est enceinte. Et il y a les deux enfants, Jacquemart et Jacqueline, qui frappent les quarts d'heure. Bon, ça va être anecdotique, ça montre justement l'émancipation de la bourgeoisie. Prendre le contrôle du temps par le beffroi. Oui, il y a une parité sociale qui évolue entre les deux. Avant, il y avait sur le plan des deux genres, ceux qui prient, ceux qui travaillent et ceux qui se battent. Et là, on va apparaître quand même les travailleurs de terre, les travailleurs mais on va apparaître également cette classe que j'appelais la marchandise, la classe des marchands, des échangeurs, etc. Et donc, comme les sacrés, justement, un espace neutre. Hein. Pourquoi les Allemands ont fait ce pacte d'amitié entre catholiques et protestants? C'était parce qu'ils ne pouvaient pas travailler.
Justement, à propos de ce que tu disais sur les marchands, ça me rappelle aussi justement ce que dit Jean-Pierre Vernant sur l'émergence justement de la raison chez les Grecs. Et il montre que c'est surtout dans les villes de la côte d'Asie mineure où justement on a eu des commerçants, des marchands, qui se sont émancipés en fait de la tradition. Donc on retrouve on retrouve le même mécanisme finalement. Une classe marchande qui veut, pour faire ses affaires, a besoin justement de cet espace neutre, a besoin de s'émanciper de la tutelle religieuse.
Les Nîmois n'ont pas été très calottes, hein, par une conception des petits pas socialisés. Mais à Nîmes, oui, il y avait du train. Il dit que Nîmes a une grande collection de CD Augusto qui était des prêtres de l'empereur. Donc il est dans cette question. Donc il y a des signes d'attendre plus.
Est-ce que les invasions
Donc il y a des exemples justement qui sont très intéressants. L'Espagne, d'abord l'Espagne musulmane, où il y avait justement une grande tolérance. On ne peut pas parler quand même de laïcité, mais enfin de grande tolérance en pays de cohabitation, mais entre les gens des différents cultes. Il y a la Sicile qui a une très brillante civilisation à la fois chrétienne et musulmane. Mais il y a eu des ministères, un peu comme actuellement sur le Fillon, sans doute, il y avait à la fois des catholiques et des musulmans, et des grands ministres en Sicile. En France, J'avais un copain algérien qui me disait que il y avait une certaine prégnance des intellectuels musulmans, notamment à Montpellier, pour le santé, à Lunel, je crois. À Lunel, il y avait l'école juive, une faculté juive. Mais je crois que il y a eu d'ailleurs des échanges, il y avait quand même des. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens qui adhèrent à l'islam, mais il y a eu quelques musulmans qui venaient aussi, même à Paris, je crois, des étudiants. Je crois que ce qui a pu se marquer, c'est finalement la Sicile et l'Espagne. Il y a eu vraiment une sorte de civilisation mixte, je dirais pas carrément laïque, mais multiconfessionnelle et un peu détachée, disons, des intégristes. Donc, il y a une certaine perméabilité. Il y a un souverain espagnol catholique, Pierre le Cruel, qui avait trois langues. La langue espagnole, la langue arabe et la langue juive. C'est après que ça s'est dégradé, c'est les rois catholiques. Je pense qu'il y avait une reconnaissance aussi de religion par une autre. Parce que à Tunis, il y avait une église Saint-Louis des Français, du temps de l'esclavage. Et donc, il se pourrait que les esclaves chrétiens pouvaient pratiquer leur religion.